Bonsoir. Les experts de l'ONU mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont rendu leur rapport sur la situation en République démocratique du Congo lundi 8 juillet 2024. Ce rapport fait un état des lieux sur les niveaux de violence auxquels est confronté le pays, notamment dans les provinces de l'Est. L'une des révélations de ce rapport est le rôle que joue l'Ouganda dans le conflit qui oppose les forces loyalistes de la RDC au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. À propos du M23, le groupe prévient que la crise du M23 risque de déclencher un conflit régional plus vaste. Ces experts notent également dans ce document que le gouvernement congolais continue d'utiliser comme supplétif les groupes Wazalendo, les FDLR et d'autres forces pour combattre les M23 et les RDF. Comment analyser ce rapport des experts de l'ONU? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 9 juillet 2024. Participe au débat Rigel Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'experts, du groupe d'études plutôt sur le Congo, GEC en sigle. Rigel Miviri, bonsoir.
Bonsoir madame.
Joseph Kongolo avec moi dans ce studio, il est analyste politique et coordonnateur du bureau d'études et d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les co-débatteurs.
Le professeur Mwaila Tiembe est aussi avec nous dans ce débat. Il est professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Mwaila, bonsoir.
Bonsoir madame Thierry.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 862, Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
L'armée rwandaise s'implique désormais directement et de façon décisive dans les opérations contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, ce qui a permis au M23 de dominer militairement dans le petit nord et d'étendre rapidement leur territoire jusqu'aux rives du lac Édouard. C'est ce qu'indique le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Ce rapport révèle aussi que l'Ouganda apporte un appui aux rebelles du M23. Tous les acteurs armés ont recruté et utilisent des enfants dans les cadres des hostilités à une échelle sans précédent, lit-on dans le même rapport. Pelekipe là, nous en dit plus.
D'après ces rapports, les conditions de sécurité et la situation humanitaire qui règne dans l'est de la RDC, toujours en proie à une violence intense, continuent de se détériorer. Au Nord Kivu, les forces démocratiques alliées ADF intensifient leurs attaques contre les centres urbains et poursuivent leurs opérations en Ouganda. Elles ont causé le plus grand nombre de morts, principalement des civils. Dans le Sud Kivu, la crise liée au M23 a continué d'influer sur la dynamique des groupes armés. Les vives tensions entre le Burundi et le Rwanda ont amené les deux pays à se rapprocher des groupes armés étrangers basés au Sud Kivu. Si les rebelles bénéficient de l'appui direct de l'Ouganda et du Rwanda, dont l'armée a carrément pris la direction des opérations sur le terrain, la même source renseigne que le gouvernement congolais continue d'utiliser comme supplétif les groupes Wazalendo, les FDLR et d'autres forces pour combattre les M23 et l'armée rwandaise. À propos du M23, le groupe d'experts des Nations Unies prévient que la crise du mouvement du 23 mars risque de déclencher un conflit régional plus vaste. Dans l'ouest du pays, les rapports font aussi allusion à la poursuite du conflit dans la province du Maïndombe, alimenté par le groupe Mobondo.
Merci Pelekipe là pour ce résumé. Rigel Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Un nouveau rapport des experts de l'ONU mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rapport a été publié lundi 8 juillet 2024. Ce rapport fait un état des lieux lieu sur le niveau de violence auquel est confrontée la RDC, notamment dans les provinces de l'Est de la RDC. On peut lire dans ce rapport que l'armée rwandaise s'implique désormais directement et de façon décisive dans les opérations contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Quelle lecture vous faites de ce rapport? J'imagine que vous l'avez lu.
Oui. Tout d'abord, ce rapport nous vient avec quelques réalités qu'on savait déjà et quelques nouveautés. Et parmi les nouveautés, c'est l'ampleur de l'implication du Rwanda. On savait tous que le Rwanda était impliqué et qu'il était sur le terrain avec même ses forces. Mais là, ce rapport vient encore ajouter à l'analyse et au fait le fait que cette ampleur-là est devenue encore une fois croissante, significative et déterminante dans la conquête de différents territoires jusqu'à aujourd'hui dans le Lubero ou dans les territoires de Lubero depuis la semaine passée. Donc, ces rapports dit ce qui était déjà connu, mais en tout cas beaucoup de encore beaucoup plus de avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de preuves. Pour ceux-là qui l'ont lu, il y a beaucoup de photographies qui prouvent à suffisance les contenus du rapport. Il y a aussi un peu d'analyse en termes de qu'est-ce que ça signifie pour la région des Grands Lacs. Et là, je pense que c'est très intéressant ce qu'ils disent. Le fait que le Rwanda puisse s'impliquer avec une mesure qui fait de lui un acteur du conflit. Et on pourrait même se poser la question sur le mot « agression ». Est-ce que ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser de plus en plus ? Parce que juridiquement, on pourrait dire qu'il y a tous les éléments nécessaires pour parler d'une agression. Et ça montre aussi que ce n'est plus un support sur un soutien à un groupe armé étranger, mais là, ça devient un État étranger qui attaque un autre État et qui a des militaires sur son sol. Et qui progresse, qui fait des conquêtes sur le sol d'un État voisin. Et ça, je pense que en termes d'analyse, c'est différent de dire que il est en soutien à M23. Le rapport le dit clairement que le nombre de militaires sous commandement rwandais sont plus est plus élevé que même le nombre de militaires M23. Et là, en termes d'analyse, ça veut dire que celui qui a le contrôle militaire, c'est le Rwanda, parce que plus vous avez de troupes, vous avez aussi un commandement. Et donc, ça montre clairement ce rapport, encore une fois, que c'est le Rwanda qui a la manœuvre, étant sur le plan politique, mais aussi, étant donné qu'il est en train de gagner du terrain, il a aussi une mainmise sur le positionnement politique et du M23 et de l'AFC qui de plus en plus se positionne comme l'aile politique de ce mouvement.
Alors, peut-on parler d'évolution dans le discours de la communauté internationale?
Il faudra attendre. Ça, ce n'est pas encore la communauté internationale qui est en train de parler, c'est plutôt les experts. Et maintenant, il faut attendre ce que sera la réaction de la communauté internationale.
Juste une petite parenthèse. Hier, lors de la réunion sous la RDC, au Conseil de sécurité, plusieurs pays ont cité nommément le Rwanda. On demande au Rwanda de quitter le territoire congolais. Ils se sont souvent basés sur le rapport.
Encore une fois, il y a des pays qui s'ajoutent à la liste de ce qu'il avait déjà fait, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. On sait que les États-Unis l'avaient déjà dit, la France l'avait déjà dit, la Grande-Bretagne le disait aussi avec des mots un peu neutres, mais ils l'ont dit aussi, donc l'Union européenne en tant que telle. Donc maintenant, ce sont les actes qui suivent. Il ne suffit pas tout simplement de les dire. À ce qui concerne d'autres contextes qui sont presque similaires, on peut parler de l'Ukraine, on a entendu des discours beaucoup plus virulents, on a vu même des actes être posés. La question elle s'est posée et elle s'est demandée, est-ce que la communauté internationale va aller jusque-là?
Alors, une autre révélation dans ce nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU, c'est la présence de l'Ouganda ou le rôle que l'Ouganda joue dans le conflit qui oppose la RDC au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Officiellement, oui. On sait que le gouvernement congolais n'a jamais cité l'Ouganda comme étant parmi les pays qui l'agressent, mais là, le groupe, ce rapport, cite nommément l'Ouganda.
Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est factuel, qui était déjà connu. Mais maintenant, encore une fois, c'est l'ampleur, mais aussi les acteurs qui semblent être la nouveauté ici. Là, le rapport cite nommément le renseignement ougandais comme étant impliqué. Et là, on voit clairement qu'il ne s'agit pas seulement des arrangements locaux, mais là, c'est au plus haut niveau que l'État ougandais est impliqué, l'État en tant que tel, et pas seulement des individus. Et ça, je pense que c'est une nouveauté. Et on peut imaginer que, avec cette nouvelle information, que les relations entre l'Ouganda et le Congo soient mises à mal, parce que la confiance, forcément, va être mise à mal à cause de cette réalité. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'en tant que tel, on parlait déjà de l'Ouganda et de l'armée ougandaise qui a aussi ses propres réalités à l'intérieur, autant qu'il y a des acteurs dans l'armée ougandaise qui sont trop proches du Rwanda. Il y a aussi des acteurs qui sont très critiques du régime rwandais. Et c'est ce qui pourrait peut-être expliquer aussi des politiques contradictoires dans une même armée et dans un même pays.
Joseph Kongolo, analyste politique et coordonnateur du Bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership, quelle lecture vous faites de toutes ces révélations dans ce nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU sur les niveaux de violence auxquels est confrontée la RDC?
Bien, merci beaucoup madame. Je voudrais d'emblée dire que la guerre, l'autre guerre, la guerre du Congo, il est d'abord à placer dans un contexte international où le monde est en redéfinition. Et cette guerre, comme celle de l'Ukraine, ce n'est pas une guerre qui est classique. Parce que derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN. De la même manière que derrière le Rwanda, il y a l'Ouganda. Il y a plusieurs États qui soutiennent même politiquement le Rwanda dans l'agression contre la République démocratique du Congo.
États africains ou même...
Les États africains en particulier. Je ne parle pas d'abord des États africains en particulier, mais même à l'étranger, au-delà des États, il y a d'autres super États qui s'appellent les multinationales aujourd'hui, qui sont derrière la guerre contre la République démocratique du Congo via le Rwanda. Voyez-vous, c'est une guerre tellement complexe et globale. Et le rapport, c'est que le rapport révèle, madame, ce n'est pas nouveau pour nous. Ce n'est pas nouveau. Tout Congolais sait que derrière le M23, se trouvent le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres puissances. Ça, ce sont des états limitrophes. Ça, nous le savons depuis très longtemps. Donc, ce rapport, c'est peut-être la honte de la communauté internationale de ne pas dire ce qui est réellement sur le terrain. Et ils ont récupéré leur temps de l'annoncer au vu, au su, n'est-ce pas, du monde. Mais en réalité, les faits ne datent pas d'aujourd'hui.
Il fallait peut-être des enquêtes approfondies.
Madame, ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que le Rwanda était derrière. Et ils savaient que l'Ouganda était aussi derrière. Et il y a des soutiens politiques qui sont clairs.
Mais là, le rapport dit que le Rwanda s'implique désormais directement.
Même le mot là, madame, il ne nous ébranle pas. Le Rwanda a tout, madame, missile sol-air en République démocratique du Congo. Ça venait d'où? Des rebelles? Ça, c'est s'impliquer directement. Vous savez ce que ça coûte? Et qui a engagé ces armes sophistiquées, n'est-ce pas, contre la guerre en République démocratique du Congo? Pour nous, c'est pas nouveau. En tout cas, pour nous qui suivons la situation telle pas à pas, ce n'est pas du tout nouveau. Mais par contre, la communauté internationale a rejoint, n'est-ce pas, a rejoint le narratif de la République démocratique du Congo, le narratif des experts qui existent. Ils ont rejoint tout simplement un discours qui a existé. Nous qui vivons la guerre, nous savons que tout ce qu'on a dit, c'est une récupération en réalité. C'est une récupération. Vraiment une récupération. Donc nous comprenons tout de suite que il y a une certaine avancée quand même de la diplomatie, de la République démocratique du Congo, arriver à amener la communauté internationale à dire ce qui est réellement sur le terrain, ce qui existe depuis longtemps sur le terrain. Ça, c'est une avancée diplomatique qu'il faut quand même apprécier. Mais nous voulons que derrière toutes ces déclarations, bientôt ce sera le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va devoir faire une déclaration là-dessus ou même une résolution, nous aimerions voir des actes concrets sur le terrain allant dans le sens, n'est-ce pas, d'arrêter cette guerre et de terminer pratiquement ce conflit. Comme ils l'ont signalé, et ça j'ai apprécié, c'est que cette guerre, effectivement, non seulement elle va créer une guerre au sein de la sous-région, une instabilité notoire au sein de la sous-région, mais nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Sauf qu'il y a de la cendre au-dessus du feu. Nous sommes déjà là. Regardez les conflits aujourd'hui qui est latent entre la population, les Congolais de la République démocratique du Congo et les Congolais, de Congo-Brazzaville. Il faut comprendre qu'il y a déjà sous la cendre du feu qu'il faut éteindre plus tôt. Entre le Congo et le Rwanda, c'est déjà traditionnel, c'est connu, c'est déjà résiduel. Tout ça, et aujourd'hui, même avec l'Ouganda, il faut essayer de parler avec les gens qui vivent la guerre et vous dire que l'Ouganda est complètement impliqué dans la guerre, malgré qu'il y a une coopération militaire pour lutter contre les ADF et tout ça. Je crois que derrière tout ça, il y a de l'hypocrisie dans cette histoire.
Mais pourquoi notre gouvernement ne l'a jamais dénoncé?
Je pense, là c'est moi qui le pense, qu'on ne peut pas ouvrir deux fronts à la fois. C'est moi qui pense, c'est une stratégie de
guerre. Mais entre-temps, on collabore avec ce pays-là, dans des opérations.
Justement, on ne peut pas ouvrir deux fronts à la fois. Peut-être une stratégie ou une tactique de guerre pour éviter que, bon, avec toutes les difficultés que nous avons au niveau de l'armée, qu'on ne puisse pas ouvrir un autre front. Vous comprenez la situation telle qu'elle se présente au niveau de notre armée. Mais en réalité, tout Congolais, de l'Est, de Beni, de Butembo, tout ce monde, savent très bien que l'Ouganda a toujours soutenu le Rwanda, a toujours été derrière le 1-23. Et d'ailleurs, le 1-23 est entré par la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de hasard. Entre États, on ne peut pas concevoir qu'un groupe rebelle vienne attaquer un État souverain par votre frontière. Vous comprenez? Donc il y a cette implication directe ou indirecte. Peut-être aujourd'hui, c'est tellement fragrant la face, n'est-ce pas, de la communauté internationale qu'ils préfèrent en parler que de ne pas en parler. Alors s'ils en ont parlé, alors nous aimerions bien voir des actes concrets sur le terrain. Pour comprendre, finalement, est-ce qu'il y a complicité ou il n'y a pas complicité dans cette histoire de la communauté internationale? Parce qu'en fait, le mot est là. L'enjeu, c'est au niveau de la complicité tacite ou non de la communauté internationale sur un problème qui est vieux depuis 30 ans et dont les acteurs sont connus à fond.
Alors en parlant des complicités, il y a Bob Moulumbila qui nous suit sur Facebook. Pour lui, le rapport Mapping parle de la situation dans la partie est de la RDC. Nous attendons toujours la publication de ce rapport. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il y a la complicité de la communauté internationale en externe tout comme en interne.
Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, madame. Le problème, c'est que tout le monde sait quel est le rôle qu'il joue dans cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale connaît bien avec précision son rôle. Et quand on commence à dénoncer, à dire la vérité, est-ce que c'est un début de solution de problème? Est-ce que c'est un début d'implication concrète, n'est-ce pas, la communauté internationale? C'est un point d'interrogation. Ou encore, agacé, dépassé par les événements à l'Est, il préfère ne pas faire comme la France a fait au moment du génocide rwandais, pour venir 30-40 ans plus tard reconnaître sa responsabilité. Je pense que c'est une récupération, c'est peut-être un choc moral de la communauté internationale devant une situation qui a perduré 30 ans durant et qui continue à faire des dégâts humanitaires extrêmes, voyez-vous. Donc la peur de cette responsabilité morale, cette responsabilité historique morale, peut-être c'est là qui amène la communauté internationale à vouloir dévoiler tout simplement le coin de l'iceberg.
Alors, pour Emmanuel Batongo, qui nous suit aussi depuis la page Facebook de Radio Kapi, tous ces rapports, c'est pour distraire le peuple congolais, alors que l'Est est devenu un abattoir pour la population. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, Madame Kelly, les révélations de ce rapport des Nations Unies, en fait, ne révèlent rien d'extraordinaire qu'on ne savait pas. En vérité, ce qu'il y a derrière, c'est le dilemme des sécurités de la République démocratique du Congo, qui s'est aggravé à cause de la duplicité de ses voisins, notamment Kampala et Kigali, qui, voici des années, ont mis la main sur ce pays. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce que l'on constate depuis? Ces États sont amis le matin, on fait des discours, on pense le bon sens, l'Union africaine, la communauté économique des pays de l'Est, de l'Afrique australe, CEAC, et j'en passe les meilleurs. Ça, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit. Mais le soir, on prend le visage de l'ennemi. Et comment ce visage de l'ennemi s'est exprimé depuis bientôt quelques années, avant même l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ceux-là même, le Rwanda et l'Ouganda, qu'il avait amené au pouvoir, ont exprimé devant ce dernier, avant sa mort naturellement, qu'ils voulaient qu'il paye le prix de la guerre. Ils l'ont aidé à chasser Mobutu, ils l'ont mis au pouvoir, il faut qu'il paye le prix de la guerre. Dois-je rappeler qu'à l'époque, même si beaucoup de gens dans ce pays ne se souviennent pas ou ne disent pas, le président Mugabe avait officiellement sorti un document demandant à Laurent Désiré Kabila de payer le prix de la guerre au Zimbabwe. Alors, ces deux derniers alliés, l'Ouganda et le Rwanda, ont décidé, lorsque Laurent Désiré Kabila leur a demandé de partir, rentrer dans leur pays, les remerciant de l'avoir amené au pouvoir, en considérant que nous serons des amis, ne rentrer chez eux. Ces derniers ont considéré qu'il était mal éduqué, qu'il les a maltraités et qu'il allait payer le prix de cet affront. On connaît la suite. Aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans des conditions que personne ne connaît et à l'heure qu'il est, c'est stand-by. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rapport? Mais ce rapport, le rapport Mapi, avait déjà dit des choses qui vont au-delà de ce que nous voyons maintenant. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau est que, après que le Kampala et Kigali aient décidé, après avoir été chassés, après la mort de Laurent Désiré Kabila, faire semblant de renouer avec le Congo d'une manière ou d'une autre, mais en sommet, Kigali et Kampala ont décidé à nouveau de remettre la main sur les ressources de la République démocratique du Congo et ont décidé de fragiliser la souveraineté de ce pays en invoquant d'une manière récurrente leur droit à la sécurité. Chaque fois qu'il y a quelques remous, on accuse la RDC d'être derrière des menaces et à la sécurité de Kampala et à la sécurité de Kigali. Alors, bien que le gouvernement congolais s'en défende, ces deux pays considèrent que c'est une sorte de fanfaronnade pour la simple raison que faute de capacité de sécurité et de défense dissuasive qui aurait permis au gouvernement congolais de joindre la parole à l'acte, c'est-à-dire sa capacité à infliger des dégâts irréparables à ses voisins têtus, alors qu'est-ce qu'on constate? Évidemment, le gouvernement a son corps défendant compte tenu des moyens limités de sa capacité de sécurité et de défense, est obligé de constater que les choses ne marchent pas comme il aurait bien voulu le voir venir, et l'ensemble des pays du monde soi-disant amis de la République démocratique du Congo tape sur le Congo en lui disant oui, il faut négocier, vous voyez, vous comprenez, etc. Et le Rwanda a le beau rôle de dire à tout le monde Ben, vous voyez, le gouvernement congolais soutient les FDLR, et comme ce sont des génocidaires, donc il y a une volonté derrière de venir prendre le pouvoir à Kigali. Madame Blanche rappelait qu'il y a quelques années déjà, au lendemain du génocide rwandais, le président Kagame avait décidé militairement d'attaquer les camps des réfugiés en commettant ce qu'on peut considérer comme un crime grave pour un État souverain d'attaquer un camp des réfugiés. Quel était l'argument, à tort ou à raison, que le président Kagame avait justifié en disant « Je soupçonne le président Mobutu d'être derrière s'est arrangé avec les Nations Unies pour accorder le statut de réfugié à des hommes armés, des Interahamwe et autres phares, avec l'objectif de venir prendre le pouvoir à Kigali. » Donc, par anticipation, Kigali justifiait de venir tuer les réfugiés sur le sol congolais en violation de la souveraineté du Congo. À l'époque, Mobutu avait voulu crier, personne n'a voulu entendre sa cause, parce que le sachant mort ou malade, etc., personne n'a considéré qu'il s'agit d'une agression. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que au-delà de l'exploitation des minéraux, au-delà de la fragilisation de la sécurité de la République démocratique du Congo, les mêmes pays qui avaient à l'époque, sous les Nations Unies d'une manière générale, mais surtout sur les gouvernements congolais, à partir du moment où il a été décidé que le Congolais devrait se réconcilier au lendemain de l'accord de Lusaka, 1+4, etc., on a vu, sous la pression, le Rwanda retirer ses forces, le Rwanda retirer ses forces. On a cru que c'était les bons sentiments et que les choses iraient mieux. Alors, ce à quoi on a cité aujourd'hui, non seulement le rapport précédent des Nations Unies avait attesté que Kigali et derrière l'un d'un poids, aujourd'hui ce n'est plus être derrière au sens de donner même les armes au M23, mais les soldats rwandais combattent sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'était nouveau ça. Parce qu'au départ, quand on disait il soutient, il y avait encore un flottement, non, on ne soutient pas, d'ailleurs ce sont des Congolais, le Rwanda ne les soutient pas. Aujourd'hui, il est clair. Et d'ailleurs, dans l'interview du président Kagame, lorsqu'on lui fait voir que ces hommes sont sur le territoire de la République démocratique du Congo, le président Kagame a dit, mais le président Tshisekedi a dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. Est-ce que le Rwanda peut rester bras croisés en attendant que la République démocratique du Congo lui déclare la guerre? Ben, ça veut dire que par anticipation, il a décidé de mettre ses hommes armés sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ça la réalité qu'on est en train de révéler aujourd'hui. C'est une nouvelle phase, au-delà de l'exploitation de ressources, au-delà de manipulation d'une partie des Congolais, y compris ceux du M23 et autres encore. Aujourd'hui, le Rwanda prit la décision militairement de venir sur le territoire de la République démocratique du Congo et d'essayer la réalité. C'est ça, madame.
Et là, c'est un État qui agresse un autre.
Tout le monde a crié. S'il vous plaît.
Oui, je disais là, maintenant, c'est un État qui agresse un autre État.
Évidemment, la qualification, c'est qu'un collègue disait tout à l'heure, normalement, dans une situation normale, c'est le Conseil de sécurité qui a qualifié en droit international de déclarer l'agression d'un État par un autre. Et vous connaissez, madame, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est paralysé par la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Et il est difficile de réunir le Conseil et d'avoir une décision qualifiant ce que le Rwanda fait sur le territoire de la République démocratique du Congo d'agression. Donc, aussi longtemps que le Conseil de sécurité ne peut pas se réunir et qu'il n'y a pas une autre instance pour déclarer que Kigali agresse la République démocratique du Congo au sens du droit international, évidemment, tout le monde tire son chapeau, il y en a qui se cachent sous le bois, ben oui, oui, mais ce sont des histoires des Africains, il faut qu'ils règlent l'affaire entre eux, et on renvoie à ce qui a commencé déjà les négociations de l'Union africaine qui a désigné l'Angola, et l'Angola à la main, les pays de l'Afrique de l'Est dont on connaît le fiasco de leur troupes militaires qui ont été envoyées au Congo et qui sont rentrées chez elles dans des conditions que l'on sait, la queue entre les pattes. Et tout ça n'est pas tout à fait reluisant pour pouvoir penser que la situation de la République démocratique du Congo est en train de s'éclaircir. Au fond, ce qui est derrière, lorsqu'on voit par exemple l'Union européenne signer un accord avec Kigali concernant les minerais que Kigali ne produit pas, il y a là quelque chose de tout à fait étonnant entre ceux qui se déclarent amis de la République démocratique du Congo, mais qui, sur le plan du droit, agissent avec les États qui sont réellement derrière les forces qui veulent faire du mal à la République démocratique du Congo. C'est ça la réalité, madame.
Professeur, on va vous garder dans cette émission. Le temps pour nous d'ouvrir le standard pour prendre ces internautes, ces auditeurs plutôt, qui nous suivent de partout. On va se rendre à Mambasa, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet auditeur.
Posté Takima à Mambasa, province de l'Ituri. Nous pensons que ce rapport vient affirmer une fois de plus la thèse selon laquelle le conflit armé de l'Est de la République démocratique du Congo implique plusieurs pays et acteurs de la sous-région. Outre le Rwanda, l'implication de l'Ouganda et le rôle joué par ces derniers dans ces conflits a été d'une très grande importance pour l'avancement et la conquête des parties territoriales de ces rebelles du M23. Et de l'autre côté, le gouvernement congolais n'a pas eu à aborder le rôle de ces pays, bien entendu l'Ouganda, qui joue le double jeu. Au Grand Nord, il est avec le gouvernement congolais, tandis qu'au Petit Nord, il joue un rôle ambigu. Certes, le rapport souligne l'implication directe des pays voisins de la République démocratique du Congo, mais on devrait aller plus loin en indiquant et en identifiant les acteurs internationaux qui alimentent ces conflits pour certains intérêts mesquins. Ensuite, nous pensons que le Conseil de sécurité de l'ONU va maintenant sanctionner tous ces acteurs impliqués dans ces conflits de l'Est de la RDC. Et enfin, le gouvernement congolais doit prendre des décisions idoines pour arrêter la souffrance humanitaire de la population civile déplacée et reconquérir l'impartie du territoire national occupé illégalement par les rebelles.
Rigan Miviri, que pensez-vous de l'analyse que vient de faire cet auditeur de Mambasa, en Ituri?
Évidemment, lorsqu'on parle du M23, on comprend la part, en plus, encore une fois, l'implication du Rwanda. Mais là, il ne faut pas globaliser tout. On sait qu'il y a beaucoup de groupes armés sur le territoire congolais. Par exemple, quand on parle de Mambasa, où l'auditeur se trouve, il y a des groupes qui se mobilisent là-bas. Il ne s'agit pas du même contexte que la M23. Il y a le Codeco à Ituri. Il y a aussi de Kivu. Il y a de groupes Maïmaï qui se mobilisent là-bas. Donc, bien sûr, la crise du M23, malheureusement, elle fait de l'ombre à d'autres crises. Et elle fait que ce soit au niveau régional ou au niveau national, on n'a pas les ressources ni la possibilité de résoudre les autres crises, notamment la plus grande crise, pour moi, qui est la crise ADF, qui, malheureusement, et reléguer au second plan, pendant que les ressources qui sont mises sur la M23 pouvaient être mises à la résolution de cette crise qui est en train de faire des pertes en vie humaine chaque jour. Et ça, je pense que c'est ça le plus grand problème avec la crise M23. Mais il y a des responsabilités du côté du gouvernement congolais qui doivent aussi résoudre d'autres crises qui n'ont rien à voir forcément avec l'étranger, qui sont la responsabilité de l'État, qui se sont créés par le vide sécuritaire qui assure certaines zones de cette République. Donc voilà, ça c'est un autre débat, mais si on se concentre sur la M23 et sur ces rapports, bien sûr qu'il faudrait que chaque acteur, que ce soit international et régional, chaque acteur puisse prendre sa responsabilité et puisse aussi poser des actes qui vont dans le sens de la résolution de ce conflit. Les responsabilités sont partagées, le Congo doit faire sa part, la communauté internationale doit faire sa part, notamment en mettant le Rwanda devant ses responsabilités. Il n'y a rien qui puisse justifier que le Rwanda soit en République démocratique du Congo. Ils parlent de la défense de leur territoire. On ne défend pas un territoire à plus de 100 km de ce même territoire. Aujourd'hui, le M23 est à Lubero, et dans le territoire de Lubero vers Kibumba, c'est très loin du territoire rwandais. Quelle est la menace sur le Rwanda qui se trouve là-bas? On pourrait parler de plus loin dans les massifs, quelle est la menace sur le Rwanda qui se trouve là-bas. Donc, bien sûr, il y a des choses qui doivent être dites et il y a des responsabilités qui doivent être prises de manière conséquente.
Direction Kananga, dans la province du Kasaï central, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne.
Déjà, Louis Abamba, depuis Kana, les rapports de l'ONU est une chose, mais les résultats attendus par la population en est autre. Nous, peuple congolais, nous voulons juste voir les rebelles M23 et d'autres troupes armées qui sèment la sécurité sur notre sol se retirer. Si l'ONU veut la paix dans ce pays, il doit commencer par interpeller le président rwandais et tous ceux qui sont derrière lui et l'infliger de lourdes peines pour des crimes commis. Mais pendant que le président rwandais vit calmement et l'ONU vient nous faire un tel discours, nous trouvons distraction.
Joseph Kongolo.
Bien, schématiquement, c'est bon, c'est ce qui doit être fait. Mais ce que Jean-Louis a dit, ou le non-dit de son discours, c'est que entre ce résultat qu'il veut, il y a un mécanisme qui doit être mis sur place. C'est d'abord de définir les moyens qu'il faut pour le gouvernement congolais, parce qu'en fait, la responsabilité de la fin de cette guerre relève du gouvernement congolais. On a compris tout de suite que la communauté internationale et les amis qu'on appelait amis autrefois, mais qui sont tous presque des complices, ne veulent pas vraiment mettre fin à cette guerre. Je crois que la grande responsabilité revient à la République démocratique du Congo, qui doit refaire, n'est-ce pas, son instrument, l'armée, qui est l'instrument de la sécurité et de la défense. Il y a un problème sérieux à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut la gouvernance de la guerre. La guerre doit avoir une gouvernance particulière. Il ne faut pas qu'on nous raconte chaque fois du détournement de ceci, de cela et tout ça. Ça démobilise l'opinion. Et vous savez, quand l'opinion n'est pas avec vous, à un certain moment, vous ne pouvez pas gagner une guerre, voyez-vous. Donc je crois qu'il y a un ensemble de ce que j'appelle les intelligences stratégiques qu'il faut réunir pour pouvoir réunir des moyens qui conviennent pour mettre fin à cette guerre. Je veux bien, Jean-Louis veut que la guerre parte et que l'ONU prenne les décisions qu'il faut. Si l'ONU avait la volonté de prendre des décisions coercitives, eh ben l'ONU aurait pris ses décisions depuis très longtemps. Parce qu'il y a eu des rapports, plusieurs rapports qui se sont succédés, qui démontrent bien que le Rwanda était responsable de toutes ces agressions à la République démocratique du Congo, mais il n'y a jamais eu des actions concrètes. Ni des actions concrètes contre le Rwanda. Donc.
Mais justement, c'est ce que la population ne comprend pas. Pourquoi il n'y a pas des actions concrètes contre le Rwanda? Pourquoi, par exemple, la communauté internationale ou l'ONU n'impose pas, ne demande pas au Rwanda de quitter? C'est vrai qu'on l'a dit hein, plusieurs fois, ils ont demandé, ils ont fait des discours, il faut quitter le territoire congolais, mais le Rwanda n'obtempère pas.
Mais justement, il y a un problème. Nous avions été en retard sur le plan diplomatique, ça il faut le dire, et que le Rwanda, dans sa diplomatie de compassion, si vous voulez, il a capitalisé le génocide partout dans toutes les plateformes internationales, où il a provoqué la commisération envers le Rwanda, compte tenu de ce qui s'est passé, ce génocide, et nous avions été absents sur ce terrain diplomatique. Et c'est comme ça que toutes ces thèses du Rwanda ont été acceptées au plus haut niveau, n'est-ce pas? Au niveau de l'ONU, au niveau des États, au niveau des ensembles, n'est-ce pas, de microcosmes politiques internationaux, où nous avons été absents pendant très longtemps, et ils ont créé une opinion qui a essayé, n'est-ce pas, de se placer pratiquement derrière le Rwanda. Donc, c'est maintenant, n'est-ce pas, que avec la diplomatie, on commence à récupérer le terrain et peut-être à déshabiller la vérité de terrain. Et en ce moment-là, nous croyons que l'ONU pourra jouer son rôle. Jouer son rôle. Mais je doute que l'ONU soit vraiment la solution aujourd'hui.
Parce et la solution, ça serait quoi?
Oui, je crois que la meilleure solution, c'est la République démocratique du Congo de mettre fin à la guerre. Soit par la guerre, soit par la diplomatie. Ça, c'est ça la meilleure solution. Parce que quand nous voyons comment le monde marche aujourd'hui, madame, quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine, quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde, il est dit, l'ONU a perdu son pouvoir et toute sa capacité de coercition sur l'ensemble des membres des États. Voyez-vous, et les intérêts foisonnés parfois des multinationales qui deviennent des super États aujourd'hui.
Les multinationales. Alors, quand vous parlez de diplomatie, c'est-à-dire quoi concrètement d'une rencontre entre les autorités congolaises et rwandaises, d'un dialogue, il s'agit de quoi exactement?
Non, même s'il y a victoire militaire, ça se termine toujours par se réunir autour d'une table. C'est aussi une forme de diplomatie de guerre. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on peut, on peut terminer le conflit par la guerre. Mais au fond, on sera toujours autour d'une table pour sceller la fin de la guerre, ainsi de suite et tout ça. Donc, la diplomatie elle-même, c'est une guerre, c'est une autre guerre faite autrement, voyez-vous. Donc, nous sommes sur le terrain de la guerre. Pratiquement, c'est là où le Congo doit réunir les moyens. Et surtout, madame, et ça je lui dis, il faut réunir les intelligences stratégiques. Et dans les intelligences stratégiques, il n'y a pas que la violence brute par l'armée. Non, une stratégie de guerre, elle n'est pas seulement de l'armée, il y a l'économie, il y a la mobilisation de la population, il y a des moyens, il y a un tas de choses qu'il faut réunir, n'est-ce pas? Madame, j'ai toujours dit ceci.
Rapidement, s'il vous plaît.
En 78 et 1978, il y a eu la guerre à Colusie. C'était une guerre presque semblable, sur le plan de la forme, hein, presque semblable à celle de l'Est. C'est-à-dire que les rebelles sont venus dans la population. Comment dégager les rebelles de la population? En 1977, il y avait la guerre de 80 jours. Elle n'a fait que 80 jours, cette guerre-là. C'était aussi des rebelles qui se sont immiscés, n'est-ce pas, à la population. Et on a terminé cette guerre en 87. Est-ce qu'il n'y a pas des historiens militaires de la guerre de 77, de 78, qui peuvent donner quelques conseils au président de la République? Ce sont des stratèges. Ce sont des gens qui savent comment ils ont mis fin à la guerre. Une guerre qui était, sur le plan de la forme, semblable à celle de l'Est.
Merci Joseph Kongolo. Il y a un autre auditeur, Benjamin Melima Melingo, qui est aussi en ligne, qui voudrait donner son avis sur le sujet de ce soir. On va l'écouter, puis on revient dans ce studio.
Moi, c'est Benjamin Melima Melingo. Je vous appelle à partir de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Il y en a eu autant de rapports pour accuser nos agresseurs. Mais malheureusement, aucune sanction n'a été envisagée pour ces gens-là. La RDC est seule contre tous à cause de ses richesses. L'ONU fournit autant de rapports pour faire croire aux yeux du monde qu'elle a la volonté de trouver des solutions à nos problèmes. En outre, l'Ouganda est un élément important dans la crise à l'est de notre pays, car la prise de la cité de Bunagana en est une illustration. Mais hélas, nos autorités étaient incapables de citer nommément ces derniers, car ayant été engagés dans la traque des ADF dans l'opération conjointe. Nous devons construire de bonnes alliances avec ceux qui veulent nous aider et non avec les hypocrites.
Merci Benjamin. Il y a Prince Katoka qui nous suit depuis la page Facebook. Lui pense que la vraie solution, c'est déclarer la guerre au Rwanda. Professeur Moïla Tchimbe.
Ben je pense que cette proclamation de foi de nombre de nos compatriotes est légitime dans le sens que, en voyant la misère qui règne dans le pays, en voyant les massacres sur l'est de la République démocratique du Congo, le nombre de déplacés, les viols, les gens sont effrayés. Et qu'est-ce qu'ils voient encore? Ils voient leur armée à son corps dépendant. Matin et soir, il y a des soldats qui meurent, qui luttent, et même les compatriotes congolais, les Wazalindo et autres, qui se sont joints par patriotisme pour donner un coup de main à l'armée. Jusqu'à ce jour, il faut le reconnaître honnêtement, il n'est pas possible de crier victoire. Alors par conséquent, indépendamment de la colère qui pousse à dire il faut déclarer la guerre, si on déclare la guerre, qui fait la guerre? C'est notre armée qui doit faire la guerre. Mais dans l'état actuel des choses, réalisme et respect oblige, on ne peut pas décréter la guerre contre le Rwanda, compte tenu de tous les problèmes que connaît notre armée, indépendamment de la vaillance de nos soldats et la précipitation de leurs moyens, indépendamment également de la volonté du gouvernement depuis quelques années déjà, depuis le gouvernement du président Kabila jusqu'à aujourd'hui. L'armée, il faut le reconnaître, n'a pas les moyens qui lui permettent d'infliger les dégâts irréparables à nos adversaires pour les contraindre à comprendre par la force que le Congo avait raison. Par conséquent, ce sera encore une aventure extraordinaire. Si la République démocratique du Congo prenait l'initiative de la guerre, la terre entière dira, oui, vous voyez, c'est la République démocratique du Congo qui a violé le droit international, qui a déclaré la guerre à un État souverain, etc., etc. C'est-à-dire que la victime serait l'accusé du monde entier. Pour dire, mais vous voyez, c'est par, comment dirais-je, une certaine irresponsabilité. La guerre est difficile, on ne peut pas la gagner dans les conditions actuelles. Le pays a des difficultés que personne ne veut nier. Mais est-ce, faut-il ajouter les morts au quotidien à d'autres morts pour une autre guerre? Non, personnellement, je pense que cette option du sang, de douleur que tiennent nos compatriotes n'est pas réaliste. Le réalisme serait que, étant donné, parce que on laisse toujours Kigali prendre l'initiative en disant, ben vous voyez, nous on veut la paix, c'est le Congo qui ne veut pas. Je rappelle que dans l'interview du président Kagame qui est passé dans les médias internationaux, il indique du doigt que c'est le président de la République démocratique du Congo qui ne veut pas. Moi j'ai voulu, j'ai même envoyé mon délégué pour discuter, et c'est lui qui a dit qu'il ne va pas de la discussion, il veut faire la guerre ronde. Par conséquent, ce qu'on ne peut pas gagner par la guerre, on peut gagner par la diplomatie, c'est-à-dire par la négociation. Le président Kagame s'était dérobé derrière le M23. Quand le monde entier a découvert que c'est lui qui est derrière, et aujourd'hui c'est son armée qui combat sur le territoire de la République démocratique du Congo, du moment où il veut faire porter le chapeau au gouvernement congolais qui refuserait d'aller à la négociation, il faut dire, chiche, voyons cette négociation, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Parce qu'au fond, l'affaire de FDLR, madame, ce n'est pas la première, c'est depuis le gouvernement du président Kabila que le Rwanda lève toujours la lièvre avec l'affaire de FDLR. Mais j'ai déjà dit sur votre antenne que les FDLR, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais qui ont le statut de réfugiés.
Et donc,
ils veulent rentrer dans leur pays. Ce n'est pas l'affaire de la République démocratique du Congo.
Pour vous, professeur, aujourd'hui, la RDC devrait négocier avec le Rwanda, c'est ça, pour pouvoir mettre fin à cette guerre.
Madame, si on veut mettre le Rwanda devant la réalité, il ne faut pas éluder la négociation. Parce que ça lui donne le bon rôle de dire, voilà, sur ce que l'on sait aujourd'hui dans le monde entier, le Rwanda est considéré du point de vue de soft power comme le gardien du temple, c'est l'homme qui a pris les l'Union africaine au moment où on parlait de mettre l'Union africaine au diapason du monde, imaginer des réformes, c'est Kagame qui a été plébiscité sur son rôle. Aujourd'hui, c'est Kagame qui, avec son pays, a remplacé la République démocratique du Congo en termes de casque bleu. C'est le Rwanda qui pourvoit le casque bleu. Par conséquent, le monde entier reconnaît, à tort ou à raison, le Rwanda comme le pays de la stabilité qui veut l'honneur de l'Afrique. Il faut lire, madame, ce que les Africains écrivent sur Kagame et sur ce qu'il représente pour l'Afrique.
Merci.
En conséquence de quoi ? Tout ce bon monde, les Nations Unies, l'Union Européenne, etc., le considère comme un pôle de stabilité. Il faut le mettre au pied du mur.
Merci.
Cette fois, il dit qu'il veut la négociation. Eh bien, allons aux négociations, voyons ce qu'il y a sur la table. Vous verrez qu'on peut le dégonfler en montrant qu'en réalité, si on va pour négocier, la République démocratique du Congo n'a rien à perdre à négocier parce que la la République démocratique du Congo démontrera qu'il n'a rien à voir avec le génocide rwandais, ni les au contraire, le Congo a subi les conséquences.
Merci, professeur.
C'était une affaire inter-rwandaise. Ce n'était pas le Congo qui était créé le document.
Merci, professeur Moïla Chiembe. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin de notre magazine. Maître Miviri, très rapidement, votre conclusion. Vous êtes d'avis aussi qu'il faudrait aller aux négociations.
Je pense que l'État congolais doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas opposer la négociation à la poursuite des opérations militaires. L'État congolais a son droit de défendre son territoire. Autant il a son droit de parler avec tous les autres États, dont le Rwanda.
Joseph Kongolo.
Je crois que la position officielle du gouvernement congolais est claire là-dessus. On est sur tous les fronts. On est sur la guerre, on est sur la diplomatie. Et on est sur le juridique, parce qu'il y a aussi des procès en vue. Donc je crois qu'on est sur l'ensemble, sur tous ces plans-là, et je pense que la guerre, c'est l'élément déterminant de la marche de la diplomatie. Je crois qu'on doit se défendre, mais aussi récupérer le terrain sur l'ensemble du territoire national. Et à ce moment-là, on ne fait pas la guerre au Rwanda, on fait la guerre au Congo, pour libérer le territoire occupé.
Merci Joseph Kongolo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.